Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir, voici La Voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi Audrey. Il y a quelques événements informés entre autres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a fixé le statut d'alerte le plus élevé pour toute la région syrienne. APHR se concentre sur les menaces contre les femmes parlementaires de l'ASEAN. Le secteur des marchés des capitaux s'améliorera l'année prochaine. Indonésie appelle à la protection des civils en Syrie. Lors de sa rencontre avec le président de la BID, la ministre indonésienne des Finances a demandé une absorption accrue de la main-d'œuvre indonésienne. Basnas distribue 11 000 colis d'aide aux réfugiés palestiniens et ministre indonésien de la jeunesse et des sports soutient le tir à l'arc indonésien pour écrire l'histoire aux Jeux Olympiques de 2028. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. Le directeur pour la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques indonésiennes du ministère des Affaires étrangères, Yuda Nugraha, a déclaré dimanche dans une déclaration écrite que l'ambassade indonésienne à Damas avait fixé le statut d'alerte le plus élevé ou alerte 1 pour toute la région syrienne, à savoir Alep et Hama, suite à l'escalade de la guerre civile qui a atteint la capitale Damas. Suite à la création d'alerte 1, le ministère indonésien des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie à Damas ont tenu samedi dernier une réunion virtuelle avec la communauté indonésienne en Syrie pour fournir les dernières informations sur la situation sécuritaire et les mesures d'urgence, y compris l'évacuation. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré qu'il y a actuellement 1162 citoyens indonésiens, pour la plupart des travailleurs migrants, dont la majorité vit à Damas. Le président des partenaires parlementaires de l'ASEAN pour les droits de l'homme, APHR, Charles Santiago, a déclaré qu'en 2025, l'APHR se concentrera sur les menaces contre les femmes parlementaires députées à risque dans la région de l'Asie du Sud-Est. Il a déclaré cela lors d'un point de presse de l'APHR à Denpasar dimanche. Le Parlement de l'ASEAN pour les droits de l'homme, APHR, a tenu une réunion de presse sur les parlementaires en danger et autres défis pour la démocratie et les droits de l'homme en Asie du Sud-Est, à Denpasar, Bali. Charles a également invité toutes les personnes concernées à prêter attention aux femmes qui ont risqué leur vie pour défendre la vérité. La PHR continue d'appeler toutes les parties prenantes et partenaires internationaux à intensifier leurs efforts collectifs pour protéger les parlementaires en danger dans la région de l'ASEAN. La réunion a réuni des femmes parlementaires de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines. Le président général de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, Anindya Bakri, a déclaré que le secteur des marchés de capitaux s'améliorera à partir de 2025 en raison des conditions fondamentales solides de l'économie indonésienne. Dans une déclaration officielle à Jakarta dimanche, Anindya Bakri a expliqué que l'attractivité des investissements aux États-Unis est un facteur qui fait fluctuer les prix des actions et des obligations indonésiennes. Cependant, en raison des fondamentaux économiques solides de l'Indonésie, les conditions fluctuantes ont tendance à s'accentuer. Auparavant, lorsqu'il était l'orateur principal du sommet du réseau d'investisseurs 2024 à Jakarta jeudi dernier, Anindya Bakri s'était déclaré optimiste quant au fait que l'Indonésie avait une excellente opportunité de diriger les pays du Sud dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique mondiale. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, appelle toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie à garantir la protection des civils conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. Dans un communiqué officiel du ministère indonésien des Affaires étrangères dimanche soir, le gouvernement indonésien a souligné l'importance de protéger la sécurité des civils dans le contexte de la crise prolongée que traverse le pays, tout en encourageant le respect des principes humanitaires. En outre, l'Indonésien a également souligné qu'une solution à la crise syrienne ne peut être obtenue que par un processus de transactions pacifiques, inclusifs et démocratiques, tout en préservant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade à Damas, a également préparé des mesures d'anticipation, notamment un plan d'évacuation des citoyens indonésiens si la situation sécuritaire se détériorait. La ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, a demandé à la Banque islamique de développement, BID, d'accroître l'absorption des travailleurs indonésiens dans la gestion de cette organisation internationale lors de sa rencontre avec le président de la BID, Mohamed Sulaiman Al-Jasser. Sri Mulyani, sur son compte Instagram, S.M. Indrawati, cité lundi à Jakarta, a déclaré que cette situation constitue un défi pour les personnels indonésiens qui souhaitent être actifs et progresser dans leur carrière dans les institutions internationales. Au cours de la réunion, Sri Mulyani et le président de la BID ont également discuté des défis de développement pour les pays membres de la BID, ainsi que de l'orientation et du cadre stratégique des opérations de la BID au cours des 10 prochaines années. Sri Mulyani a déclaré que le président Al-Jasser espérait sa présence à une réunion à Médine début 2025 pour discuter du cadre stratégique de la BID pour l'avenir. L'Agence nationale indonésienne Zakat Amil Baznas et l'Agence humanitaire égyptienne Sunnah Al-Haya ont distribué 11 000 colis contenant des produits de première nécessité aux réfugiés palestiniens en Égypte. Dans un communiqué de Baznas dimanche, les colis d'aide contenaient de la farine, du riz, des macaronis et d'autres aliments distribués depuis samedi dernier à un certain nombre de réfugiés palestiniens répartis dans plusieurs points d'Égypte. Selon le président de Baznas de la République d'Indonésie, Ha Nur Ahmad, la distribution d'aide aux réfugiés palestiniens est une véritable forme de l'esprit de la zakat pour l'humanité. En distribuant l'aide, a déclaré Nur Ahmad, Baznaz continue de s'efforcer de garantir que cette distribution d'aide soit acceptable et bénéfique pour le peuple palestinien. Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Menpora, Dito Aryo Tejo, a souligné l'engagement du gouvernement à soutenir le tir à l'arc aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028. Dito a déclaré que, comme installation d'entraînement au centre sportif d'élite de la jeunesse de Cibubur, conçu pour plusieurs sports, dont le tir à l'arc. Dito est optimiste quant au fait que cette installation aidera les athlètes indonésiens de tir à l'arc à atteindre des performances maximales. L'équipe indonésienne de tir à l'arc devrait participer à divers événements internationaux tels que la Coupe du monde de tir à l'arc, les SEA Games de Thaïlande, les Jeux asiatiques de la jeunesse et les Jeux mondiaux. Bon chargeur, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « En attendant la résurrection de la Syrie après la chute du régime d'Assad ». Bachar al-Assad, le dirigeant déchu du régime bassiste syrien, a décidé de démissionner de son poste et de fuir la Syrie dimanche 8 décembre 2024. Depuis samedi, des groupes anti-Assad sont entrés dans Damas et depuis le sud de la capitale syrienne, tandis que les forces militaires gouvernementales se sont retirées du complexe du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et de l'aéroport international de Damas. La ville s'est rendue aux forces de l'opposition dimanche après que les forces du régime d'Al-Assad ont perdu le contrôle de la ville entière. La démission de Bachar al-Assad a mis fin au long conflit en Syrie. Cet événement a reçu un accueil chaleureux de la part des résidents syriens contraints de fuir à l'étranger en raison du conflit. Le moment est désormais venu de reconstruire la Syrie grâce à un processus de transition pacifique de leadership. Les efforts de réconciliation doivent être une priorité afin que la démission d'Assad ne crée pas un nouveau conflit en Syrie. La fin du régime d'Assad a été saluée par de nombreux chefs d'État favorables à la paix en Syrie. Même l'Union européenne s'est déclarée prête à aider la Syrie à se relever du conflit. Les améliorations internes de la Syrie après le conflit ne sont pas faciles, considérant que le conflit qui a eu lieu a causé un grand nombre de victimes, tant des morts que des dégâts aux infrastructures. La Syrie gagne désormais de l'élan pour se réorganiser. Des efforts sont nécessaires pour restaurer la confiance internationale en Syrie. La Syrie est un pays du Moyen-Orient qui possède des richesses sous forme de pétrole, de textiles, d'aliments transformés, de boissons, de tabac et de phosphates. Avant le conflit, la Syrie produisait environ 400 000 barils de pétrole par jour, mais cette production est tombée à environ 20 000 à 25 000 barils par jour en raison du prix. Le conflit prolongé impliquant diverses parties a détruit la Syrie sous de nombreux aspects. Les pertes humaines, les dommages aux infrastructures et l'effondrement économique sont les prochains défis auxquels il faut remédier immédiatement. Il est temps que la paix revienne en Syrie et que le peuple syrien vive ses jours en paix et non dans la peur. C'est Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 9 décembre 1947. Le massacre de Rawagede a eu lieu. Le massacre de Rawagede a eu lieu le 9 décembre 1947 dans le village de Rawagede qui est maintenant situé dans le village de Balonsari Rawamerta Karawang. Cet incident s'est produit lorsque l'armée néerlandaise a lancé la première agression militaire dans la zone située entre Karawang et Bekasi. Des milliers d'habitants ont fui vers Karawang et dans les combats qui ont éclaté, des centaines de civils ont été victimes. En dehors de cela, le 4 octobre 1948, l'armée néerlandaise a mené une opération de nettoyage à Rawagede qui a entraîné la mort de 35 habitants sans raison apparente. Bien que beaucoup ait lié cet incident au célèbre poème de Khairil Anwar entre Karawang et Bekasi. Cette allégation n'a pas été prouvée. Ce massacre est devenu l'une des sombres tragédies de l'histoire de la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Le 14 septembre 2011, la Cour de la Haye a déclaré que le gouvernement néerlandais doit être responsable de cet incident et fournir une indemnisation aux victimes et à leurs familles. Chers amis, passons au 9 décembre 1948, Journée internationale pour la prévention du génocide. Le 9 décembre 1948 est célébré comme la Journée internationale pour la prévention du génocide. Cette commémoration trouve ses racines dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui a été ratifiée par les Nations Unies le 9 décembre 1948. Le but de cette commémoration est de sensibiliser le monde à l'importance de prévenir le crime de génocide et de rendre hommage aux victimes de ces crimes. Le 29 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies, par la résolution A /69/323, désigné le 9 décembre, Journée internationale de la mémoire et de la dignité des victimes du crime de génocide. Chers amis, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec le 9 décembre 2003, date de la création de la Journée mondiale de lutte contre la corruption par l'ONU. Le 9 décembre 2003 est célébré comme la Journée mondiale de lutte contre la corruption et ce qu'on appelle Accordia. Cette commémoration a été créée pour la première fois par les Nations Unies, ONU, en 2003, après la signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption en Mérida, Mexique. À travers cette campagne, l'ONU veut sensibiliser le monde au danger de la corruption qui nuit à tous les niveaux de la société. La création de la Journée anticorruption a commencé le 30 octobre 2003, lorsque le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, exprimer l'importance de lutter contre la corruption qui entrave le progrès des pays. Peu de temps après, l'ONU a conclu le premier accord anticorruption au monde qui est ensuite entré en vigueur en décembre 2005. Bonjour, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est Le ministre coordinateur et langue encourage le partenariat Indonésie pour renforcer l'économie. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, espère que la coopération économique entre l'Indonésie et l'ANT sera élargie dans divers secteurs. Cela a été transmis virtuellement par Erlangga Hartarto lors du forum d'investissement synergique entre l'Indonésie vendredi 6 décembre. Le gouvernement indonésien espère toucher divers secteurs tels que le numérique, les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, la santé, y compris le développement de vaccins et de produits pharmaceutiques, les télécommunications et d'autres secteurs stratégiques. Erlangga Hartarto a déclaré, l'ANT est un partenaire important pour l'Indonésie. Les deux pays ont échangé environ 27 milliards de dollars américains en 2023 et ont enregistré une croissance annuelle d'environ 20%, selon Erlangga.
And for Indonesia, India is our strategic partners, not only in trading, but in investment as well.
Pour l'Indonésie, l'ANT est un partenaire stratégique, non seulement en termes de commerce, mais aussi d'investissement. L'Indonésie doit établir des ponts avec l'ANT et établir des liens entre fabriques en Indonésie et fabriques en ANT. Ensemble, nous pouvons collaborer dans divers secteurs. À cette occasion, Erlangga Hartarto expliquait qu'Indonésie cherchait à ouvrir de nouveaux marchés en établissant une coopération internationale et en faisant preuve d'engagement en matière de politique étrangère. Cet engagement se concrétise en faisant partie du G20, de la PEC, de l'ASEAN, du cadre économique Indo-Pacifique, IPEF, de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, CPTPP, de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE et BRICS. Le gouvernement indonésien établit également activement une coopération bilatérale avec divers pays partenaires, dont l'ANT, afin de maximiser le potentiel économique de l'Indonésie qui devrait croître de 5% en 2024 et de 5,2% en 2025. Erlangga Hartarto a déclaré que, sous la direction du président Prabowo, la croissance économique d'Indonésie devrait atteindre 8% en 2029. Pour atteindre l'objectif de croissance compris entre 5,2% et 8% au cours des 5 prochaines années, le gouvernement mène une transformation économique à travers la valeur industrielle, le renforcement de l'économie numérique, le développement de nouvelles économies telles que l'écosystème des semi-conducteurs et la transition énergétique. Erlangga Hartarto a déclaré qu'au milieu du ralentissement économique dans plusieurs pays partenaires, les fondamentaux économiques d'Indonésie restaient solides. Constatant les fondamentaux économiques solides de l'Indonésie, le ministre coordinateur Erlangga a encouragé le partenariat Indonésie-ANT à renforcer l'économie pour le bien-être des populations des deux pays. C'est Juritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kau yang membuat aku semakin kuat kecantikanmu seiring dengan senyummu hingga ku damai dalam pelukanmu. Terima kasih kau telah datang dan memberi cinta sesungguhnya. Pasangan yang terindah,
kaulah
pasangan yang terindah.
Pasangan terindah,
kecantikan ada di dalam hatimu. Kau yang makin kuat kecantikanmu seiring dengan senyummu hingga ku damai dalam pelukanmu. Terima kasih kau telah datang dan memberi cinta sesungguhnya. Jagalah kami berdua bersama dengan dia yang ku cinta.
Bonjour chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces territoires à Nusa Tenggara Est possèdent des richesses uniques pleines d'histoire, dont la grotte de Liangbua, située dans une zone vallonnée karstique de la région de la Résidence Manggarai à Flores, Nusa Tenggara Est. Le nom Liangbua vient de la langue Manggarai Flores. Liang signifie grotte et bua signifie froid. Donc Liangbua peut être traduit par grotte froide. Cette grotte est connue dans le monde entier grâce à la découverte de fossiles d'Homo floresiensis ou ce qu'on appelle souvent le Hobbit en 2003. Cette découverte a révélé la vie des anciens humains qui vivaient dans cette région il y a environ 60 000 à 100 000 ans. Outre d'anciens fossiles humains, les scientifiques ont également trouvé des fossiles d'animaux anciens tels que le stégodon ou éléphant pygmée, de grands barangs et des oiseaux géants, ce qui fait de cette grotte l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Saya cerita lagrot de liang bua kesel nong selemang in istoak mezosi in bote extraordinaire. Set crot ayun tai majestueuse avec in longueur dans bekong 50 mètres, in largeur de 40 mètres et in hauteur sous plafond de 25 mètres. Des stalactites et des stalagmites décorent les parois calcaires de la grotte, créant une atmosphère fascinante. Pour ceux d'entre vous qui aiment la photographie, l'éclairage naturel de la grotte offre des moments à ne pas manquer. Saya cerita, le voyage vers la grotte de Liang Bua est très facile. Cette grotte se trouve à environ 14 km de Huteng, la capitale de la résidence de Manggarai, et est accessible en 45 minutes en véhicule. Sur la plage, des guides locaux sont prêts à expliquer diverses histoires intéressantes sur l'histoire de la grotte. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter, le meilleur moment est le matin pour profiter de l'atmosphère belle et calme de cette grotte. La grotte de Liang Bua offre une expérience touristique alliant éducation, histoire et beauté naturelle. C'est cerita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Aku di sini di atas awan, aku tercawan paras cantik rupawan tak jemu-jemu. Aku memandang, ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti meskipun sementara saat kita berjumpa, sebentar lagi kita segera tiba lepas dari mimpiku jelang realita. Menapak jejak di atas bumi ini akan ku kenang selalu memori. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini
hatinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti inilah surga ku di dalam nirwana. Meskipun
chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Perusahaan Ekspedisi. Di Perusahaan Ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Per Sepeda Motor. Je répète. Per sepeda motor signifie par moto. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien et employé dans une agence d'expédition dans la ville de Semarang. L'employé a répondu à la question de Chris en l'informant des frais d'expédition de la moto. Écoutons le dialogue.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Biaya. Biaya signifie les frais. Pengiriman. Pengiriman signifie l'expédition. Dari Semarang. Dari Semarang signifie de Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya signifie à Palangkaraya. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah signifie 1.300.000 rupiah. Per. Per signifie par. Sepeda motor. Sepeda motor signifie la moto. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya 1.300.000 rupiah par moto.
Berapa biaya? Berapa biaya? Signifie combien ça coûte? Mengirim. Mengirim signifie envoyer. Dans la conversation, vous entendez la phrase biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Je répète. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Signifie les frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya 1.300.000 rupiah par moto. Dans cette phrase, il y a une expression per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Le mot per signifie par, c'est-à-dire chacun ou un, fonctionne pour marquer le nombre de motos, ce qui signifie une moto. L'expression per sepeda motor signifie par moto, signifie chaque ou une moto. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Signifie, les frais d'adhésion mensuels à ce centre de remise en forme sont 100.000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Signifie, prix du billet de cinéma 50.000 rupiah per person. En Indonésie, le terme désignant un véhicule motorisé à deux roues est sepeda motor, ce qui signifie la moto. Cependant, la majorité des Indonésiens appellent sepeda motor un motor. Motor, ce qui signifie la moto. Dans certaines régions, il y a aussi des gens qui appellent les motos en kereta. Kereta. Cela veut dire le train. En fait, il y a aussi ce qu'ils appellent une certaine marque de moto. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Puaskah kau menyiksa aku? Kau buat akal sehatku berhenti. Hanya ada satu ya, cuma kamu.
Oh, mengganggu. Lama-lama aku lelah menanti. Tak ada kejelasanmu yang pasti. Waktuku sudah habis berharga. Oh, suatu hari nanti kau kan
banget. Kau jadikan aku mainan kamu.
Karena kau tak bisa hidup sendiri. Sampai di sini saja aku diam.
Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau akan menyadari dan berpaling. Kau mencari.
Menyesali.
Suatu hari nanti kau akan sadari dan berbalik.
Kau mencariku
sudah cukup sabar. Kau gantungkanku.
Lihat saja kau pasti menyesali.
Lihat saja kau.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est temps pour l'émission des magazines musicaux avec moi, Audrey. Dans cette édition de Planginada, magazine musical, nous vous présentons une chanson de Kroncong intitulée Sandaran Hati, chantée par Restianade avec la mafia de Kroncong. Serge Ami, cette chanson écrite par Noé et popularisée par le groupe de musique Leto est sortie en 2005. Cette chanson a une signification plus profonde que les relations humaines entre les gens. Cette chanson décrit quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité et l'impuissance alors qu'elle traverse une phase de sa vie. Cette chanson peut donc rappeler aux humains que le Créateur les fortifiera toujours. En se souvenant du Créateur, une personne respectera ses obligations en tant qu'humain envers son Dieu. Bon, chers auditeurs, voici Restianade et Mafia Kroncong vont chanter une chanson Kroncong intitulée Sandaran Hati. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.